France Culture.
Adopté mi-mai par le Parlement, censuré en bonne partie par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ne cesse pourtant de faire débat, même après son aventure législative. Alors ce soir, nous poursuivons ce débat à travers une question. La justice des mineurs devrait-elle être la même que celle des adultes? Et deux débatteurs ce soir qui sont studieux puisqu'ils sont arrivés avec des notes. Raphaël Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Jean Terlier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Tarn Ensemble pour la République, rapporteur de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Décision antidémocratique, mais c'est une décision qui aujourd'hui, je crois, est contraire à l'intérêt national et à la sécurité qu'on doit assurer aux Français. Le Conseil constitutionnel applique le droit et applique le cadre légal. Et moi, je ne lui reproche pas de le faire. Je dis en revanche que face à une violence qui a évolué et face à des nouvelles mesures qui doivent absolument être mises en vigueur, la comparution immédiate, c'est du bon sens. La révision de l'excuse de minorité de 18 à 16 ans, lorsqu'on voit comment les jeunes sont parfois, pas tous évidemment, mais de plus en plus violents, c'est aussi du bon sens. Ces mesures, elles doivent être appliquées. Et donc moi, je dis que nous, politiques, on doit assumer de regarder les choses en face et dire, eh bien, si le cadre légal qu'applique le Conseil constitutionnel n'est plus adapté à la situation de la société, il doit être changé.
Maud Bréjon, députée des Hauts-de-Seine, Raphaël Kempf, est-ce que la décision du Conseil constitutionnel visant à censurer une partie de cette loi votée par le Parlement, est-ce qu'elle est contraire à la sécurité qu'on doit aux Français ?
Non, évidemment. C'est une décision qui n'applique pas le cadre légal, comme vient de le dire Maud Bréjon, mais qui applique une certaine interprétation du cadre constitutionnel. C'est-à-dire que je me félicite de cette décision du Conseil constitutionnel sur notamment la censure des comparutions immédiates pour mineurs, même si je suis en désaccord avec les motifs qui ont conduit à cette censure. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, pour rentrer dès à présent dans des détails un peu techniques, vous me pardonnerez, le Conseil constitutionnel a dit que la comparution immédiate pour mineurs n'était pas constitutionnelle en l'état du texte. Et que s'il était prévu des garanties supplémentaires tenant à la gravité des faits et au fait que le dossier est en état, eh bien, dans ce cas-là, le Conseil laisse entendre que ce texte pourrait être conforme à la Constitution. Vous voyez, Jean Terlier, je vous donne des petits conseils pour la suite si vous voulez refaire votre texte. Mais je suis en désaccord avec ce point sur un point majeur. C'est-à-dire que je considère, et je l'ai écrit dans Le Monde, que la comparution immédiate pour mineurs serait contraire aux valeurs de la République et aux principes de la République. Notamment parce que dans l'histoire de la République, on a toujours refusé de mettre en œuvre des procédures expéditives, des procédures dites de flagrant délit. Hein. On pense au film de Raymond Depardon qui s'appelait Flagrant délit, délit flagrant. C'est comme ça que ça s'appelait avant les comparutions immédiates. Cette procédure fait honte à notre système judiciaire. On pourrait en parler pour les adultes, mais plus encore pour les enfants. Et donc à chaque fois que c'est posé la question de savoir si on devait faire une nouvelle loi pour traiter la délinquance des enfants, eh bien on a exclu systématiquement la comparution immédiate, le flagrant délit. Et l'ordonnance de 1945 l'exclut très expressément. Et c'est ce qui s'appelle, du point de vue...
Je fais juste, pardon, quelques précisions, parce que vous allez, j'allais dire, oui, dans la technique, cette ordonnance de 1945, du 2 février 1945, c'est l'ordonnance, justement, qui instaure, qui pose le cadre de la justice des mineurs en France.
Voilà, c'est-à-dire qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et avec le rétablissement de la légalité républicaine, a été pensée la question de l'avenir des enfants, et le problème de l'enfance traduite en justice, des enfants conduits en justice. Et je pense que cette formulation passive est tout à fait remarquable et édifiante, parce qu'elle laisse entendre et elle fait comprendre que un enfant n'est pas un délinquant, n'est pas un acteur de la délinquance, mais est avant tout un individu vulnérable qui doit être protégé. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on pense et on réfléchit à la manière de traiter la réalité de cette délinquance qui arrive, de cette délinquance des enfants. Et c'est la raison pour laquelle on pose un certain nombre de principes qui sont des principes républicains, parmi lesquels l'interdiction du flagrant délit.
Jean Terlier, alors sur la comparution immédiate, vous nous expliquerez par ailleurs, Raphaël Kempf, pourquoi c'est un problème, cette comparution immédiate, selon vous, s'agissant en particulier des délinquants mineurs. Mais Jean Terlier, est-ce que vous avez été surpris vous-même, j'allais dire, de cette censure sur ce point précis opéré par le Conseil constitutionnel?
Écoutez, oui, quelque peu. Merci d'avoir rappelé que cette proposition de loi portée par Gabriel Attal à la suite des émeutes de 2024 a fait l'objet donc d'une censure, mais d'une censure partielle. Tout le volet sur la responsabilisation des parents, notamment l'amende civile, et puis cette nouvelle infraction qui va permettre de responsabiliser les parents les condamnant pénalement quand ils ont manqué leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants mineurs. Tout ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel, mais effectivement, les deux mesures principales que sont la comparution immédiate et les nouvelles excuses de atténuation de la responsabilité pénale du mineur, les nouvelles précautions qu'on avait prises pour l'écarter, ont été censurées. Moi, ce que je voudrais redire, c'est qu'on parle de l'ordonnance de 45. Mais aujourd'hui, je crois que chacun peut dire qu'un mineur délinquant de 1945, c'est pas un mineur délinquant de 2025. C'est la formule qui avait été utilisée par Gabriel Attal pour justifier évidemment son texte.
Qu'est-ce qui change alors très concrètement? Parce que c'est vrai que la formule elle est marquée, mais qu'est-ce qui change entre la délinquance de 1945 et celle d'aujourd'hui?
On a un constat très clair que depuis 10-15 ans, il n'y a pas d'augmentation significative de la délinquance des mineurs. C'est un élément sur lequel je pense on est tous d'accord, encore que du côté de l'extrême droite, on va évidemment nous dire le contraire. Mais
c'est important de le rappeler, la délinquance des mineurs n'augmente pas aujourd'hui.
N'augmente pas, elle est stable à un niveau qui est quand même assez élevé, mais surtout ce qu'on constate, c'est qu'on a des mineurs qui commettent des infractions de plus en plus jeunes et des infractions de plus en plus graves. Et je crois qu'on a à la fois à respecter les principes de l'ordonnance de 45, qui sont de faire primer l'éducatif sur l'impressif. Mais lorsqu'on a essayé l'éducatif, et on essaye toujours l'éducatif, un primo-délinquant, il va jamais en prison, il est jamais condamné à une peine lourde. On a une procédure de primauté de l'éducatif avec une mesure, des mesures éducatives qui sont mises en place. Mais quand ces mesures éducatives, une, deux, trois, quatre, ont échoué, et bien à ce moment-là, on a des mineurs qui sont enfermés dans un processus de délinquance, et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il faut que pour ces mineurs-là, qui sont ciblés, qui sont le haut du spectre de la délinquance des mineurs, et bien qu'on ait une réponse pénale qui soit ferme et qui soit rapide. Ferme, on reviendra sur la question de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, mais aussi réactive. On voit, avant l'ordonnance de 45, on avait en moyenne un mineur qui passait devant le juge 18 mois en moyenne après la commission des faits. Autant vous dire qu'il avait reproduit le même type d'infraction. On a modifié cette ordonnance de 45 en gardant les grands principes, notamment celui de la primauté de l'éducatif, de la spécialisation de la justice pénale, mais aussi le fait de dire qu'un mineur ne peut pas être jugé par principe comme un majeur. Mais en conservant ces principes-là, on a fait une réforme puissante, j'étais le rapporteur de ce code de justice pénale des mineurs, une réforme de procédure qui permet aujourd'hui, en moins de 8 mois, qu'un mineur soit jugé et voit une sanction et ou une mesure éducative qui soit mise en place. Mais il y avait un trou dans la raquette. Le trou dans la raquette, c'était un mineur ne pouvait pas être, dès lors qu'il avait commis une infraction, être jugé immédiatement à la suite de la commission de l'infraction. Et donc c'est cette comparution immédiate qui devait permettre, pour des mineurs encore une fois, qui sont des mineurs récidivistes, qui sont des mineurs âgés de plus de 16 ans, qui sont encore une fois le haut du spectre de la délinquance, qu'on puisse les juger dans le cadre d'une comparution immédiate.
Alors expliquez-nous, Raphaël Kempf, vous qui connaissez justement la procédure, sa dimension concrète, ce qui vous embête là aussi, j'allais dire, d'une manière tangible, ce qui vous embête dans cette comparution immédiate en général et pour les mineurs en particulier.
Bon, on est bien obligé initialement de réfléchir à la comparution immédiate pour les majeurs, parce que c'est le seul exemple qu'on a aujourd'hui, qu'on peut observer et constater chaque jour. La comparution immédiate pour les majeurs...
Qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
Ça veut dire qu'on est jugé, on passe devant le tribunal correctionnel immédiatement après sa garde à vue. C'est-à-dire qu'on est interpellé, on passe 2 voire 3 jours en garde à vue, ensuite une nuit au dépôt du tribunal, on est présenté à un procureur et ensuite à un tribunal correctionnel. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai fait 2 audiences de comparution immédiate. Le lundi, j'étais de permanence, c'est-à-dire que très concrètement, j'arrive au tribunal vers 10h le matin, on me confie de 4 à 5 personnes que je dois défendre, que je ne connaissais pas la veille. Je dois lire le dossier de chacune de ces personnes, qui font parfois plusieurs centaines de pages. Je dois m'entretenir avec chacune de ces personnes pendant une durée qui, généralement, est de 10 ou 15 minutes, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Il faut réussir, lorsqu'on est avocat commis d'office, à créer une confiance avec les personnes que nous défendons, ce qui est extrêmement difficile parce que ils pensent que, et c'est normal parce qu'on débarque, ils nous connaissent pas, etc. On n'a pas le temps de travailler correctement les dossiers, de prendre des écritures, c'est-à-dire de rédiger un argumentaire écrit s'il y a un problème de droit ou un problème de procédure. Et ensuite, les personnes vont comparaître devant le tribunal l'après-midi, parfois jusque très tard la nuit. Et la semaine dernière, l'audience à laquelle j'ai participé a terminé à 00h30. Et les personnes qui sont dans le box arrivent tout à fait hagards, dans des vêtements sales, qui datent de l'avant-veille, voire de 3 jours auparavant, et doivent bafouiller des explications devant des magistrats qui sont peut-être fatigués ou excédés au regard du nombre de dossiers et de la pauvreté des explications qui leur sont confié.
Ça veut dire qu'en tant qu'avocat, vous n'avez le temps de rien, si je vous comprends bien, vous n'avez pas le temps d'accompagner votre client, de nouer un lien de confiance avec lui, et plus encore, d'élaborer les contours de sa défense ?
Alors nous faisons évidemment absolument tout ce qui est possible, et les confrères et consoeurs commis d'office comme moi le font, me semble-t-il, remarquablement. Mais effectivement, nous n'avons pas le temps de construire une relation qui doit s'inscrire dans la durée, notamment pour permettre, lorsque les faits sont reconnus ou doivent être reconnus et sont constitués, permettre une réflexion sur ces faits-là. Et c'est vrai que quand on a un entretien de quelques minutes seulement avec un prévenu majeur, et plus encore s'il était mineur, c'est-à-dire que si encore plus avec un mineur, comment peut-on construire une relation sur les faits qui est une garantie contre la récidive au cours de cet entretien de quelques minutes seulement ?
Eh bien, je vais tout simplement permettre à Jean Tellier de répondre à la question que vous avez posée à Raphaël Kempf.
Oui, alors déjà, il faut rappeler que la comparution immédiate qui avait été imaginée dans la proposition de loi portée par Gabriel Attal, et fort heureusement, elle ne s'appliquait pas à des mineurs primo-délinquants.
Elle s'appelait de récidivistes.
Oui, on parle de récidivistes.
Excusez-moi, relisez votre texte.
Excusez-moi de le connaître parfaitement.
Parlez-vous de personnes, juste, de mineurs condamnés définitivement?
Juste, vous pouvez me laisser finir.
Je pose la question.
Après, vous répondrez.
Non, parce que
les conditions d'ouverture de la
procédure
de comparution immédiate, c'était pour les mineurs de plus de 16 ans qui étaient des récidivistes et qui, encore une fois, étaient entourés de garanties qui étaient par rapport à l'importance de l'infraction, la gravité de l'infraction.
Par récidiviste, vous entendez bien des personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises par le passé.
Exactement. Au moins une reprise, c'était une des conditions d'ouverture. Et donc, il y avait aussi également. Et fort heureusement, nous sommes en présence de mineurs, donc la présence des parents qui est obligatoire, évidemment la présence de l'avocat, et évidemment aussi également la possibilité pour le mineur de refuser d'être jugé selon cette procédure-là. Et fort heureusement, et encore une fois, c'est la même chose pour les majeurs, on a une procédure qui est enfermée dans des conditions légales qui sont strictes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel n'a pas dit les mesures que vous préconisez ne sont pas suffisamment importantes pour garantir aux mineurs qu'ils soient jugés correctement. C'est simplement les conditions d'ouverture par rapport à la gravité de l'infraction qui nous semble être un peu en deçà de ce que ça devrait être. Donc évidemment que nous réfléchissons avec Gabriel Attal à redéposer une proposition de loi en augmentant sérieusement les conditions d'ouverture en termes de gravité d'infraction, mais évidemment pas pour des mineurs de moins de 16 ans et évidemment pas pour des mineurs qui sont primo-délinquants.
Mais juste,
bien évidemment.
Pardonnez-moi, lorsqu'on entend ce que décrit à l'instant Raphaël Kempf, les conditions dans lesquelles sont dessinées une défense justement pour un majeur en l'occurrence, puisque ce n'est pas encore le cas pour les mineurs, mais une personne qui se retrouve immédiatement devant un tribunal.
Oui.
Comment, même si la personne est récidiviste, comment, là encore, penser que l'on puisse élaborer dignement, efficacement par ailleurs, une méthode de défense?
Mais c'est ce que je vous ai répondu sur le fait que vous avez un mineur, encore une fois, qui a la présence de son avocat, qui a la présence de ses parents, et qui peut refuser d'être jugé selon cette procédure s'il estime que ses garanties procédurales et ses garanties de défense ne sont pas suffisantes. Ça, c'est possible, c'est inscrit dans la proposition de loi de Gabriel Attal, et donc me semble-t-il qu'on a, si le mineur considère qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense avec son avocat, ou qu'il a des éléments à produire, eh bien il refusera d'être jugé selon cette procédure de comparution immédiate. C'est très clairement fixé dans les textes.
Est-ce que c'est possible avec Raphaël Kempf de refuser justement dans cette situation-là, de refuser d'être jugé en comparution immédiate?
Alors, j'aimerais bien demander à M. Terlier ce qu'il se passe lorsque le mineur refuse.
Oui.
D'être jugé en comparution immédiate. Que se passe-t-il pour le mineur? Quelle est sa situation pénale?
Eh bien, il est renvoyé selon la procédure dite audience unique. Alors, c'est un peu complexe, puisqu'en fait, il y a une procédure qui permet de juger à la fois soit sur la culpabilité, soit sur la sanction, et il est renvoyé à une audience qui se tiendra dans un délai de 10 jours à 1 mois, selon la procédure classique, mais qui existe déjà dans le cadre du Code de justice pénale des mineurs, qui a été validé il y a 4 ans et qui a, comme je le disais,
fait son office. Il peut être envoyé en prison.
Ah ben, si les conditions, voilà. Si les conditions, mais
attendez,
si les conditions d'ouverture,
c'est quand même le point principal.
Non, mais ça c'est normal.
C'est normal. Vous dites que c'est normal d'envoyer des enfants en prison dans l'attente de leur procès. Attendez, Monsieur Terlier, que les auditeurs et auditrices de France Culture le sachent parfaitement. Déjà, vous méprisez les principes de la République parce que je le répète, il y a ce principe qui existe depuis que la justice des mineurs a été pensée, que des lois de la République ont été pensées en 1906, en 1912, en 1945.
Non mais
il a été interdit. Les flagrants délits, Monsieur Terlier, ont été interdits depuis l'origine pour un certain nombre de délits.
Vous parlez de flagrants délits.
Pour les délits de presse, pour les délits de police, pour les délits sur les mineurs. Donc maintenant,
c'est important. Il ne sera pas jugé selon cette comparaison.
Monsieur Terlier,
ne mélangez pas.
Monsieur Terlier, laissons terminer Raphaël Kempf et je vous redonnerai évidemment la parole.
Naturellement. Merci. Excusez-moi. Donc le mineur, l'enfant. Excusez-moi, je préfère parler d'enfant, qui est un terme juridiquement plus adéquat. Si l'enfant refuse la comparution immédiate,
c'est pas le terme.
Il peut être envoyé en prison. Il peut être envoyé en prison. Donc la pression du risque d'être placé en détention provisoire peut pousser le mineur, l'enfant, à accepter d'être jugé immédiatement dans des conditions absolument détestables. Et même si l'audience est renvoyée à 10 jours, s'il est placé en prison, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'accompagnement, de construction d'une confiance qui est possible avec son avocat pour construire un discours, une réflexion sur les faits, tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de consentement. On ne peut pas refuser, parce que le refus suppose un consentement éclairé. Et pour pouvoir consentir, il faut être dans une situation d'égalité. Et lorsqu'on sort de garde à vue, lorsqu'on a un enfant, qu'on est présenté à un juge, à un procureur, puis un juge des enfants, on n'est pas dans une situation d'égalité permettant de consentir ou de refuser.
Sur ce point, Raphaël Kempf, est-ce que ce n'est pas justement le rôle de l'avocat d'accompagner l'enfant, d'accompagner son client en l'occurrence, pour lui permettre de prendre la bonne décision d'une façon éclairée ?
Bien sûr. Alors, moi je le fais tous les jours avec les adultes et je leur dis, c'est simple, soit vous acceptez d'être jugé aujourd'hui, et dans ce cas-là on a 10 minutes pour préparer votre défense, soit vous demandez un renvoi, et dans ce cas-là les chances que vous soyez placé en détention provisoire sont très grandes. Et naturellement, comme les prévenus ne souhaitent pas être emprisonnés, incarcérés, on peut le comprendre, vont accepter d'être jugés le jour même. Donc nous, on ne prend pas la décision quand on est avocat à la place des personnes que nous défendons, on leur présente les options.
Vous éclairez la décision quand même.
On éclaire, on présente, mais présenter la décision, c'est qu'on présente cette alternative qui nous semble absolument intolérable.
Jean Terlier, je vous laisse répondre cette fois-ci.
Oui, je crois qu'il ne faut pas laisser penser ici aux auditeurs de France Culture qu'un mineur primo-délinquant qui aurait volé je ne sais trop quoi dans un supermarché se retrouverait en procédure de comparution immédiate et partirait en prison. Ce n'est pas du tout le cas. Cette procédure, évidemment, de comparution immédiate, encore une fois, elle ne s'adresse qu'à des mineurs qui ont commis des infractions graves, qui ont plus de 16 ans, qui sont en état de récidive et auxquels on applique des garanties, notamment avec la présence de l'avocat. Et l'avocat, il fait son travail quand il voit que l'infraction et quand il a accès au dossier lui permet de dire à son client qui est mineur, en présence des parents d'ailleurs du mineur, il vaut mieux faire renvoyer à une autre audience, il le fera, bien évidemment. Mais il y a pour un certain nombre de mineurs, le haut du spectre de la délinquance des mineurs, la nécessité, je suis désolé, lorsqu'ils ont commis une infraction, d'être jugés le jour même. Encore une fois, je pense que c'est de bonne justice, encore une fois, pas d'angélisme, mais pas non plus de surréaction par rapport à cette justice pénale des mineurs qui s'applique dans le cadre des principes qui sont posés par l'ordonnance de 45, où on va faire évidemment toujours primer l'éducatif sur le répressif. Mais quand on a essayé ces mesures éducatives, et là c'est le cas pour ce type de mineurs-là, quand ça a échoué, je pense qu'il faut à un moment donné être plus sévère, juger plus rapidement et juger plus fermement.
Justement, faire primer l'éducatif sur le répressif, c'est un principe fondamental, vous l'avez dit. Comment faire primer la dimension éducative, l'accompagnement éducatif de ces mineurs, de ces enfants en l'occurrence, dans le cadre de comparution immédiate? Est-ce que là, un temps est laissé pour cela? On a du mal à l'imaginer là aussi très concrètement.
Mais on peut tout à fait avoir une sanction qui sera prononcée, qui constitue en une mesure éducative aussi également. Une mesure de réparation, par exemple, une mesure d'accompagnement de ce mineur. Évidemment que
procédure normale, la dimension éducative vient en amont, justement, même de la décision de justice.
Pas toujours. Si vous voulez, selon le principe, la procédure qui a été changée, qui a été modifiée par le Code de justice pénale des mineurs, c'est le principe dit de même de la césure. Où vous avez un mineur qui est, confronté à un juge très rapidement et qui va être jugé sur sa culpabilité très rapidement, où on lui dit tu es jugé sur ta culpabilité dans un délai de 3 mois, et ensuite on va mettre avec toi en place une mesure éducative qui va nous permettre de déterminer si, en fonction de ton comportement, la sanction sera adaptée à la manière dont tu t'es comporté pendant cette période qui sépare la culpabilité de l'audience de jugement. Donc on a une mesure, ces mesures qui sont des mesures éducatives, qui sont prononcées aussi également en amont de l'audience de sur la sanction définitive. Donc ça existe déjà, ça a été mis en place et ça fonctionne plutôt bien, parce que au plus on apporte une réponse pénale tôt, au plus le mineur comprend ce qu'il a fait, est en capacité de se dire « bon ben je suis... » Parce qu'au fond, c'est qu'est-ce qu'on souhaite ? C'est éviter tout simplement la récidive. Et on a des éléments qui permettent de dire aujourd'hui, 4 ans après la mise en place de ce code de justice pénale mineure, que ça fonctionne plutôt bien.
Raphaël Kem, sur ce point, j'espère, sur le fait que l'éducatif doit toujours avoir la primauté sur le répressif, est-ce que cela est fragilisé par la comparution immédiate ?
Mais oui, alors ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Jean Terlier, c'est que au cours de la procédure, avant le prononcé d'une sanction de façon définitive, peut être mise en œuvre une mesure éducative. Et ça, c'est le sens du texte du code de la justice pénale des mineurs. Or, le texte qui a été proposé, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, permettait le jugement en comparution immédiate de mineurs qui n'avaient pas définitivement sanctionné pour une infraction, mais qui avaient déjà fait l'objet d'une mesure éducative. C'est-à-dire qu'on pouvait, dans l'année précédant leur comparution immédiate. Donc, on pouvait juger en comparution immédiate des personnes qui n'avaient pas encore été au bout du processus du code de la justice pénale des mineurs. Donc c'est en ça que j'étais en désaccord tout à l'heure quand il était indiqué que ne pouvaient être jugés en comparution immédiate que des récidivistes, parce que le sens du texte ne dit pas on ne juge en comparution immédiate que des mineurs qui ont été définitivement condamnés et sanctionnés, mais également des mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure éducative, c'est-à-dire qui n'ont pas été définitivement sanctionnés. Donc c'est-à-dire que d'une certaine manière, on ne se laisse même plus la possibilité d'aller au bout du processus tel qu'il a été pensé il y a quelques années à peine, et qui, semble-t-il, fait quand même l'unanimité parmi les professionnels.
Je vais faire entendre la voix de celui qui a porté justement cette proposition de loi, Gabriel Attal, le jour où l'Assemblée nationale a adopté cette PPL, c'était le 13 mai dernier.
Vous en souvenez sans doute, il y a un peu plus d'un an, alors Premier ministre, dans ma déclaration de politique générale, j'avais appelé à un sursaut, j'avais eu cette phrase, tu casses, tu répares, tu sanis, tu nettoies, visant à revenir à des principes simples et clairs et à adapter notre réponse pénale, parce que les jeunes de 2025 ne sont pas les jeunes de 1945. Très concrètement, ce texte, c'est quoi ? C'est la création d'une comparution immédiate pour les mineurs qui n'existe pas aujourd'hui. C'est l'atténuation du principe de l'excuse de minorité dans des cas encadrés, quand il s'agit de crimes graves, quand il y a récidive. Ce sont des mesures pour responsabiliser les parents. Ce sont des ajouts qui ont eu lieu pendant la navette parlementaire, notamment la possibilité d'avoir un couvre-feu pour les mineurs dès la sortie de l'école. C'est un texte pour les victimes d'hier, malheureusement, et je l'espère pour les victimes que nous éviterons demain grâce à ces mesures qui se renforcent aujourd'hui.
Je retiens cette expression « excuse de minorité » là aussi qui a occupé une bonne place dans les débats à propos de ce texte. C'est un principe historique entériné par l'ordonnance de 1945. Jean Terlier, expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette excuse de minorité ?
Alors, on a parlé des trois grands principes qui dirigent la justice pénale des mineurs. La justice spécialisée, un mineur, il va toujours devant un juge pour enfants. On a parlé de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Et le troisième grand pilier, c'est plutôt que l'excuse de minorité, qui est un terme, je pense, un peu inapproprié, je sais pas ce que pensera mon confrère, mais on parle plutôt d'atténuation de la responsabilité pénale. C'est-à-dire que, par principe, un mineur ne peut pas être condamné comme un majeur. D'accord ? Par principe. Et un majeur, la majorité, c'est 18 ans. Mais donc, il bénéficie d'un principe d'atténuation de la responsabilité pénale, dite excuse de minorité. Vous êtes mineur, donc la condamnation qui sera prononcée à votre encontre ne pourra pas être aussi importante que celle d'un majeur pour une infraction équivalente. Mais dès 1945, il a été prévu, dans l'ordonnance de 45, une exception à cette atténuation de la responsabilité pénale du mineur. En disant, le juge des enfants, toujours sur son contrôle, en fonction de la nature de l'infraction, de la personnalité du mineur, de la gravité des faits, eh bien, le juge pouvait renoncer à prononcer cette atténuation de la responsabilité pénale et faire en sorte qu'un mineur soit condamné comme un majeur. C'était une exception à ce principe qui est celui de l'atténuation de la responsabilité pénale.
Je me permets juste de vous couper pour qu'on puisse donner là aussi un exemple un peu concret. Voilà, vous avez parlé de l'exception. La règle, la norme, si je puis dire, c'était que lorsqu'on est mineur toujours. D'ailleurs, la peine est divisée généralement par deux.
C'est ça.
Notamment entre 16 et 18 ans. Raphaël Kempf, est-ce que, à votre avis, ce principe mérite toujours aujourd'hui d'être particulièrement protégé ?
Naturellement, un enfant est un être en construction qui a vocation à trouver ou retrouver, après un acte délinquant ou criminel, sa place dans la société. Il a vocation à être accompagné, à vivre, à grandir, à travailler, à vieillir dans la société. Donc j'aimerais qu'on m'explique les raisons pour lesquelles il faudrait absolument qu'un mineur qui a commis un fait extrêmement grave, allons, le plus grave imaginable, peut-être le meurtre, hein, qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle, doivent être punis non pas au maximum de 15 années, mais de 30 ans. Donc ce que propose la loi Attal, c'est de dire que on va protéger la société en envoyant des mineurs qui peut-être ont 16 ans en prison pour 30 ans au lieu de les envoyer en prison pour 15 ans au regard d'un crime qu'on imagine absolument terrible, incontestablement. Mais on sait que la critique de la prison est contemporaine, enfin pour paraphraser Michel Foucault, la critique de la prison est contemporaine de la création de la prison, mais elle existe encore aujourd'hui, et on sait que la prison ne permet pas de lutter contre la récidive. Au contraire, la prison est quelque chose qui contribue à renforcer la récidive. Donc je ne vois pas en quoi l'augmentation du temps que les enfants pourraient passer en prison après un délit ou un crime permettrait de lutter effectivement contre la récidive plutôt que les désocialiser et de les faire grandir. Hein, parce que là, on est en train de parler des années d'adultes. Hein, parce qu'un enfant de 16 ans qui est condamné à une peine de 20 ans ou 25 ans, eh bien, il va passer ses années de jeune adulte, de construction, les années où vous et moi, nous étudions, nous lisons, nous travaillons, nous découvrons un espace professionnel, ils vont les passer en prison. Donc ce que dit la loi Attal, c'est que ces enfants-là, il faut les laisser en prison plus longtemps.
Jean Terlier, je vous laisse répondre, j'allais dire, dans le même registre, c'est-à-dire le plus concrètement possible, et peut-être justement en filant cet exemple d'un jeune de 16-18 ans qui viendrait à commettre un meurtre.
Oui, ben on a peut-être un exemple qui est un peu probant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien quels sont les réseaux de narcotrafiquants qui utilisent des jeunes mineurs, parce qu'il s'est développé chez ces mineurs un sentiment d'impunité. Au fond, vous pouvez commettre des infractions, vous savez très bien qu'à la fin la condamnation qui sera prononcée à votre encontre, eh bien elle sera faible. Et quand on a ce mineur de 14 ans qui est commandité par depuis la prison par un narcotrafiquant pour aller assassiner un chauffeur d'Uber Eats. On sait très bien qu'on le fait parce qu'il a 14 ans. Et parce qu'on sait très bien que la condamnation, elle sera pas exemplaire. Et donc ce mineur, il a ce sentiment d'impunité. Mais c'est, j'allais dire, aujourd'hui, une utilisation.
On va le chercher pour ça, vous pensez?
Parce qu'il est mineur, bien sûr, évidemment qu'on va le chercher parce qu'il est mineur. Mais allez voir dans certaines cités, dans certains quartiers, la manière dont sont utilisés les mineurs. On les utilise, ces mineurs, parfois d'ailleurs par d'autres mineurs, mais aussi par des majeurs, justement parce qu'on sait, on te dit, en lui disant, de toute façon, tu sais très bien que tu ne crains rien. Donc, il y a ce sentiment d'impunité. Et donc, aujourd'hui, on a fait un constat, Gabriel Attal, quand il propose de créer de nouvelles conditions pour ne pas retenir l'atténuation de la responsabilité pénale. Encore une fois, je le redis, l'ordonnance de 45 le prévoyait déjà. Mais quel constat fait Gabriel Attal? Il fait le constat que dans moins de 1% des décisions de justice, l'excuse de minorité le fait de ne pas retenir l'excuse de minorité est retenu dans moins de 20% des décisions de justice. Et quand il fait ce constat-là, c'est qu'on a un dispositif qui ne fonctionne pas, qui est couplé avec ce sentiment d'impunité, et donc il faut évidemment toujours, sous le contrôle du juge, mettre en place des procédures qui permettent de mieux retenir écarter cette excuse de minorité. Notamment, je prends un exemple très concret, une des conditions d'ouverture, c'était un mineur de 16 ans qui a déjà commis un crime, qui a été condamné, qui viendrait à recommettre un autre crime alors qu'il est encore mineur, eh bien le juge pourrait, je dis bien pourrait, et il n'est pas obligé de le faire, décider d'écarter l'excuse de minorité et de continuer à le condamner ou pas, en fonction de ce qu'il souhaite, toujours sous le contrôle du juge des enfants, de prononcer ou pas cette excuse de minorité. Donc là, on voit bien qu'on donne des outils supplémentaires au juge, qui est le seul des enfants, qui a le seul la capacité d'apprécier, en fonction de la personnalité du mineur, de la gravité des faits, des conditions de récidive, d'apprécier si oui ou non il doit écarter cette excuse de minorité, en fonction, encore une fois, de critères qui sont très graves. C'est des récidives de crimes ou de délits très graves. Ça s'ouvre pas, évidemment, à, encore une fois, des primo-délinquants qui ne sont évidemment pas concernés par ces procédures.
Je voudrais vous entendre, Raphaël Kempf, sur ce sentiment d'impunité. Ça me semble important d'en parler à double titre. D'abord parce qu'on comprend que certains enfants pourraient justement passer à l'acte parce qu'ils auraient ce sentiment d'impunité. On comprend aussi, par ailleurs, en écoutant M. le député Jean Terlier, que, dans le fond, c'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux, notamment dans le trafic de stupéfiants, sont manipulés. Qu'est-ce que vous observez vous-même lorsque vous avez à accompagner justement ces enfants enfants et ces mineurs. Est-ce que ce sentiment d'impunité existe et incite à passer, entre guillemets, à l'action délinquante?
Alors moi, j'observe que, au contraire, la justice n'est pas du tout laxiste, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, il n'y a pas d'impunité. La justice est au contraire extrêmement sévère. D'ailleurs, les avocats et avocates pénalistes s'en plaignent assez régulièrement. Nous voyons des gens être incarcérés, placés en détention provisoire pour des durées très longues, prendre des peines très importantes. Et s'agissant des enfants, on voit des enfants faire l'objet de procédures. Parfois, la sanction ne réside pas seulement dans le fait d'avoir une peine à la fin ou une mesure d'incarcération ou une peine alternative, mais réside aussi dans la présence de la procédure et dans la garde à vue. C'est-à-dire que j'ai défendu un certain nombre d'enfants qui ont participé au soulèvement, qui ont fait suite au meurtre du jeune Naël Merzouk, un enfant donc tué par un policier. À l'été 2023, il y a maintenant 2 ans, des jeunes dans les quartiers populaires se sont soulevés. Et on peut le comprendre, enfin, sans valider, sans adhérer aux actes de violence ou de dégradation qui ont pu être commis. Mais on peut comprendre le sentiment de solidarité qui pouvait unir des jeunes des quartiers populaires en France à un enfant qui a été tué par la police. Et dans le cadre de la répression de ces soulèvements, les enfants ont fait l'objet de mesures de garde à vue extrêmement difficiles, de phénomènes d'humiliation, de vengeance de la part de fonctionnaires de police qui souhaitaient s'en prendre à ces enfants, et des adultes aussi ont été jugés et emprisonnés. Mais j'aimerais parler d'un exemple un peu différent, mais parce que j'interviens dans un dossier où un enfant de 17 ans a été emprisonné en détention provisoire, donc présumé innocent dans l'attente de son procès, alors qu'il avait 17 ans. Il avait 17 ans à l'époque des faits. Il est de nationalité sud-soudanaise. Il est arrivé en France comme migrant. Il a souhaité se rendre en Angleterre. Il s'est rendu en Angleterre dans un Zodiac qui a fini par chavirer au milieu de la Manche. Et il a été accusé d'avoir tenu la barre de ce Zodiac, manipulé par les passeurs qui l'ont forcé, d'une certaine manière, à tenir le gouvernail de ce bateau. Eh bien, il a été placé en garde à vue, mis en examen, placé en détention provisoire pendant 1 année, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, donc il a été remis en liberté. La peine encourue par cet enfant est une peine de 10 années d'emprisonnement pour avoir tenté de passer en Angleterre. Eh bien, avec l'excuse de minorité, le principe d'atténuation de la peine, il n'encourt qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et je ne vois mal en quoi le fait de permettre à des magistrats de le condamner à 10 ans, en application du texte de Gabriel Attal, permettrait de lutter contre le phénomène des passeurs. Mais ça, c'est la réalité des tribunaux, des prisons, des tribunaux pour enfants.
Je vous laisse réagir, Jean Terlier, d'une manière extrêmement courte, car je voudrais qu'on aborde une autre responsabilité, celle des parents.
Je pense qu'on a chacun malheureusement nos faits divers. Moi, je pense à celui du jeune Elias de 14 ans et assassiné par évidemment. Alors, ils sont présumés innocents évidemment, mais par deux mineurs qui auraient 16 et 17 ans, qui avaient un passif de condamnation important, qui avaient des obligations de ne pas, j'allais dire, être ensemble puisqu'ils étaient dans le même quartier. Et on peut aussi également penser à cette famille à qui on va dire comment se fait-il que des enfants qui sont sous le coup d'une mesure éducative ou de condamnation qui sont pendantes, comment est-ce que les meurtriers de ces enfants-là, on va leur reconnaître cette excuse de minorité par principe. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il va falloir condamner ces mineurs-là à des peines qui seront celles équivalentes à des majeurs, mais encore une fois, laisser la possibilité au juge des enfants, en fonction du comportement, de la gravité des faits et de la personnalité des mineurs qu'il a jugé, la possibilité de lui dire je considère que là pour le coup tu ne bénéficieras pas de cette atténuation de minorité, je pense que c'est à envoyer un message important à ces mineurs qui nous écoutent et qui ont parfois, il faut bien le rappeler, ce sentiment d'impunité.
Alors très rapidement sur les parents justement, les sages du Conseil constitutionnel ont validé la disposition qui visait à renforcer la responsabilité parentale. Une circonstance aggravante est désormais créée pour les parents qui se soustraient à leurs obligations légales lorsque cette défaillance est en lien direct avec une infraction commise par leur enfant. Raphaël Kempf, qu'est-ce que vous pensez de cette disposition? Et au-delà, j'allais dire, notamment depuis les révoltes qui ont fait suite au meurtre du jeune Naël, du discours qui consiste à responsabiliser de plus en plus les parents. Faut-il les inclure justement dans ces affaires directement?
Alors, d'un point de vue purement technique, je vois mal comment le texte de cette incrimination pourrait être applicable, parce qu'il prévoit que la soustraction du parent à ses obligations a directement conduit à la commission de certaines infractions sans que le parent n'en ait forcément connaissance. Donc, d'un point de vue de stricte technique juridique, je suis un peu perdu sur l'application concrète et effective de ce texte. Néanmoins, au moment, justement, je reviens à ces soulèvements après le meurtre de Naël, donc j'ai assisté des enfants, donc je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans le bureau de juge des enfants avec les parents. Les parents sont là à accompagner leurs enfants qui se voient reprocher des infractions dans le cadre de ces soulèvements. Eh bien, j'ai trouvé des juges des enfants qui parfois étaient particulièrement démunis en raison du discours officiel et public de certains responsables politiques sur la responsabilité des parents ou sur ce que devaient faire ou pas les parents. Et je pense à un responsable politique, un haut fonctionnaire, Hugues Moutou, qui était à l'époque préfet de l'Hérault et qui intervient sur la chaîne de Radio Bleu dans l'Hérault et qui dit « Pour moi, la solution à ces soulèvements, c'est deux claques et au lit. » Alors, je le dis, ça peut paraître anecdotique, mais cet extrait, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit, avait été largement diffusé. Quel message envoie-t-on aux parents lorsqu'on dit qu'il faut exercer des violences sur ses enfants pour les éduquer et pour qu'ils n'aillent pas participer à des soulèvements?
Jean Terlier, comme votre contradicteur, vous avez une minute pour répondre à ce sujet.
Oui, alors c'est une minute, je vais essayer de faire bref. Ce délit de soustraction à leurs obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs, encore une fois, il ne s'adresse pas aux parents qui sont des parents de bonne foi, qui sont des parents qui sont débordés. Je prendrai un exemple.
Comment vous allez départager les parents de bonne foi et les autres?
C'est quand même assez clair. Quand on a un enfant mineur qui a 13, 12, 13, 14 ans, comme on l'a vu lors des émeutes, qui évidemment sort le soir jusqu'à 2h des matins, dont les parents savent pertinemment que s'il sort, c'est pour aller commettre des infractions. Et bien là, on peut considérer que l'infraction serait caractérisée en disant, vous, parents, manqué à vos obligations en termes de sécurité, en termes d'éducation vis-à-vis de cet enfant mineur, en le laissant sortir alors qu'il y a un couvre-feu tard le soir, en savant pertinemment qu'il allait commettre des infractions, et bien vous, parents, maintenant, on va vous responsabiliser parce que vous êtes un parent défaillant vis-à-vis de l'éducation de votre mineur. Et c'est dans ces cas très précis-là que cette infraction-là, elle pourrait être retenue. C'est évidemment pas les parents de bonne foi qui font ce qu'ils peuvent avec parfois des mineurs qui sont entrés dans la délinquance, mais ces parents qui se soustraient à leurs obligations vis-à-vis de leur mineur, ils doivent être responsabilités et parfois sanctionnés pénalement pour le défaut de mise en sécurité de leurs enfants, par exemple.
Raphaël Kempf, très rapidement sur cette notion de parents de bonne foi, ça...
Non, mais moi je voudrais dire que lorsque des jeunes sont allés dans la rue, c'est avant tout pour des raisons politiques. Enfin, il ne faut pas oublier que ces soulèvements ont eu lieu parce qu'un enfant a été tué par un policier. Et je vois qu'on se met des œillères et qu'on ne veut pas penser ça. Tant qu'on ne pensera pas à la colère politique qui est réelle d'une certaine partie de la jeunesse et d'un grand nombre d'enfants dans ce pays en raison du comportement des policiers, je pense qu'on ne pourra pas avancer.
S'ils vont casser des vitrines et piller, ils n'y vont pas pour des raisons politiques, je m'excuse de vous le dire.
Tous les arguments ont donc été mis en avant. Merci beaucoup à tous les deux. Raphaël Kempf, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Jean Terlier, député du Tarn Ensemble pour la République, rapporteur de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question
Merci
du soir.
Merci.